carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Bonjour, bienvenue à Carrefour des Arts. Nous nous retrouvons pour notre série dédiée à l'art nouveau, en compagnie de notre spécialiste maison, Brigitte Ducousseau-Mao. Bonjour, Madame Ducousseau-Mao.
Bonjour.
Après les origines du mouvement Arts and Crafts et ses principes fondamentaux, puis un éclairage sur Charles Robert Ashby, nous poursuivons cette fois avec le mouvement des pré-raphaélites. Brigitte Ducousseau-Mao, pouvez-vous nous resituer la naissance du pré-raphaélisme ?
Alors, je vais essayer de déjà expliquer d'où vient le nom.
Oui.
Ce nom a été donné au style artistique de la confrérie des peintres pré-raphaélites et c'est un nom qui a été trouvé au début du mois de septembre 1848 dans l'atelier du peintre John Everett Millais à Londres. Dans cet atelier, 7 jeunes gens, dont 6 artistes et un écrivain, se sont rassemblés et ont donné au petit groupe qu'ils formaient le nom de pré-raphaélites. Alors, s'ils sont 7 par goût du symbolisme, seules 3 personnalités vont dominer le groupe, John Everett Millais, William Holman Hunt et Dante Gabriel Rossetti. Je vais citer les autres pour être précise, William Michel Rossetti, le frère du peintre, qui était critique d'art, il y eut Collinson, qui était l'époux de Christina Rossetti, la sœur du poète et peintre, puis Thomas Woolner, qui était sculpteur et poète, et Frédéric George Stephens, qui était critique d'art.
Alors, quel était le parcours de ces artistes, notamment des 3 initiateurs ?
Alors, John Everett Millais, qui vit entre 1829 et 1896, était issu d'une famille aisée de Jersey. Ses dons furent très tôt découverts par sa famille. Ses parents le firent entrer dès l'âge de 11 ans à la Royal Academy de Londres. Il fut d'ailleurs le plus jeune étudiant aux Beaux-Arts jamais admis dans cette institution. Il apprit à peindre de manière très académique, mais sa rencontre avec William Hunt va lui faire prendre conscience des limites de la peinture officielle. Quant à William Hunt, qui vit entre 1827 et 1910, était fils de commerçant. Son père lui avait intimé l'ordre de reprendre ses affaires, il a donc dû s'exécuter et il a fait preuve d'une rare force de caractère pour imposer sa vocation artistique à sa famille. Il s'est soumis dans un premier temps aux volontés de son père avant d'imposer son désir d'entrer à la Royal Academy.
Oui, alors, qu'est-ce qui les apparentait sur le plan artistique, ces 3 personnages ?
Alors, ces 3 personnages ont découvert ensemble Keats et Ruskin, surtout.
Oui.
John Ruskin.
Le père de tous ces mouvements, oui.
Le père fondateur.
Oui.
Et ils se sont persuadés qu'il fallait enfin redevenir sérieux, c'est ce qu'ils disaient, et qu'il fallait maintenant faire réellement référence à la nature dans leurs œuvres et non pas se contenter de recopier des tableaux de maîtres. Quant à Gabriel Dante Rossetti, ou Dante Gabriel Rossetti, qui vit entre 1828 et 1882, ainsi que son nom l'indique, il était d'origine italienne. Son père était un grand spécialiste de Dante et de la littérature du Quattrocento au King's College de Londres, ce qui nous éclaire sur le prénom de Dante.
Bien sûr.
Sa mère, Frances Polidori, italienne également, très anglicisée, a encouragé ses 4 enfants à développer leurs dons artistiques et intellectuels. Nous l'avons vu, sa sœur était poète et son frère critique d'art. Dante Gabriel Rossetti débuta dans la carrière littéraire avant de devenir peintre. Et il a traduit, dans ce début de carrière littéraire, toutes les œuvres des poètes italiens du XIIIe et XIVe siècle. Et en 1847, il a écrit une œuvre ravissante et poétique qui s'intitule « La damoiselle élue » que notre grand compositeur Claude Debussy a mis en musique plus tard, bien plus tard, vers 1887-1888, et qui n'a été joué en France pour tout un tas de raisons de droits d'auteur qu'en 1893. C'est une œuvre ravissante que je vous conseille d'écouter. très légère et qui évoque bien cet univers de la fin du XIXe siècle. Et Rossetti ne devint peintre que bien plus tard, lorsqu'il partagea l'atelier de William Holman Hunt, qui a été la figure centrale de ce mouvement pré-raphaélite, puisqu'il a influencé Millet et Rossetti, et avec qui il a fondé le pré-raphaélisme.
Oui, il a même, je crois, écrit l'histoire de l'art nouveau.
Oui, c'est un théoricien également.
Oui, oui. Oui. Et puis, finalement, ces artistes, poètes et peintres, et aussi théoriciens, penseurs en tout cas, venant d'horizons aussi différents, comment ces trois, on pourrait dire, pré-raphaélites se sont-ils rencontrés ?
Alors, ils se sont rencontrés un petit peu encore avant septembre 1848, car avant de créer le mouvement pré-raphaélite, Millet, Hunt et Rossetti avaient fondé le Cyclographic Society. C'était un club de dessin qui reposait sur la critique mutuelle. Et beaucoup d'idées pré-raphaélites ont pris forme à ce moment dans ce cours de dessin libre et cours où la critique s'exerçait entre les différents talents. Il faut ajouter que tous ces artistes étaient extrêmement jeunes. Ils avaient entre 19 et 22 ans, et ils signaient leurs œuvres avec trois lettres en majuscules, PRB, ce qui signifie Pré-Raphaélite Brothers, d'où ce nom de confrérie pré-raphaélite. Émus par leur jeunesse et leur désir de reconstruire le monde, ce petit groupe a refusé les conventions artistiques académiques. Cette fraternité pré-raphaélite désirait revitaliser en Angleterre deux choses dans la peinture anglaise, les thèmes qu'ils trouvaient vieillots et sans intérêt, et le style qui s'était considérablement abâtardi. Je cite ce qu'écrivait en 1867 le critique d'art William Michel Rossetti à propos donc, de l'académisme des Beaux-Arts.
Donc le frère de Notre-Dante.
Le frère de Notre-Dante. Oui. En 1848, donc l'époque où Courbet en France fait apparaître sa première œuvre extrêmement réaliste, il écrivait « L'école anglaise était tombée très bas, sa moyenne était arrivée à un point où le lieu commun est un éloge et où l'imbécilité n'est pas un terme excessif. »
Fermez les guillemets.
Fermez les guillemets. Alors, la haine de l'institution que manifestent ces jeunes gens fut excessive. C'était presque des adolescents. Et elle s'est focalisée sur un tableau de Raphaël. Il faut bien que cela se focalise sur quelque chose. La transfiguration de Raphaël, qui était conservée au Vatican, mais que ces jeunes Britanniques pouvaient détester, car ils l'avaient en copie, sous les yeux, à la National Gallery. Et c'est donc pour cette très jeune confrérie, ce tableau de Raphaël qui représente l'impasse de la création.
Oui, c'est l'objet de tous les délits, de tous les conflits. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi particulièrement ce tableau, avec le Christ s'envolant presque au ciel, peint en 1517, fut l'objet de tant de contestations ?
Alors, ils estimaient surtout que la Renaissance, plus que Raphaël, la Renaissance, en tout cas jusqu'à Raphaël, était possible, mais la Renaissance à partir de Raphaël était responsable de plusieurs siècles de régression en peinture. Pour eux, le pire des fautifs était bien sûr Raphaël, dont l'art était totalement décadent, et surtout, ils voulaient trouver d'autres sources d'inspiration que les sources bibliques, des sources plus authentiques. Ils voulaient étudier des œuvres littéraires et se référer aux grands mythes littéraires fondateurs. Ils voulaient se plonger dans l'histoire pour échapper aux faux-semblants, et surtout à la représentation illusionniste du monde qu'imposait l'Académie et qu'avait imposé la Renaissance jusqu'à cette fin du XIXe siècle. C'est ainsi qu'ils se sont entichés d'un passé médiéval et qu'ils ont décidé du retour aux formes gothiques. Ils ont donc imposé en Angleterre un style qui s'est appelé le Gothic Revival.
Oui, qu'on pourrait traduire par le renouveau du gothique, tout simplement, avec son esthétique très gracieuse et ses formes souples, élancées. Donc ça a donné un goût nouveau, n'est-ce pas, en Angleterre, pour la peinture primitive.
Entre 1840 et 1850, la peinture primitive a été mise à l'honneur en Angleterre. Mais il est nécessaire de préciser que, comme aucun mouvement artistique, aucune mode n'arrive comme cela par hasard ex nihilo, et qu'il est rare d'échapper à l'air du temps, cette confrérie a épousé en quelque sorte les idées du prince Albert, qui était marié à la reine Victoria.
Oui, qui ont donc créé ce fameux Victoria and Albert Museum à Londres, n'est-ce pas ?
C'est cela même. Et ce prince Albert était originaire d'Allemagne, et c'est lui qui, dans la corbeille de mariage, a amené sa collection de peintures des primitifs flamands et allemands, et c'est lui qui a donné à l'Angleterre le loisir d'admirer la précision, la force expressionniste, l'excellence des peintres dits primitifs. Il a fait redécouvrir cet art qui où le sens du détail est développé, et le goût du travail peaufiné est magnifié.
Oui, et ce retour à des concepts vraiment d'un autre temps, fut-il suivi par le public ou même par l'élite ?
Malheureusement, non. Ce concept et cet art nouveau a été suivi par des artistes, et comme tous les mouvements contestataires qui bouleversent les codes habituels, les pré-raphaélites ont été l'objet de scandales, d'incompréhensions et de critiques acerbes de la part des gens du monde des arts et des lettres. Et ce fut, toujours le même, le philosophe John Ruskin qui a défendu par deux lettres dans le Times les pré-raphaélites contre l'opinion public et qui a imposé ce mouvement comme un mouvement extrêmement important et pour signifier son engagement auprès de ce mouvement et de ces jeunes gens, il s'est allié à ce mouvement dont les idées phares ont été diffusées par une revue créée par Rossetti et secondée par John Ruskin qui était intitulée The Germ. Il y eut 4 numéros de la revue.
Que ce soit avec Arts and Crafts, qu'on a évoqué précédemment, ou ici avec les pré-raphaélites, il semble que la théorie, le style esthétique et la littérature surtout soient vraiment intimement liées, n'est-ce pas ?
La littérature est au cœur du mouvement pré-raphaélite, puisque Dante Gabriel Rossetti était littéraire et que les deux autres peintres, Millet et Hunt, adoraient la littérature. Ce fut un courant artistique dont la dimension littéraire a toujours été affirmée. Ces artistes appartenant à ce courant pré-raphaélite se sont inspirés de textes religieux ou historiques, de légendes et de mythologies. C'est donc là l'originalité du mouvement. Ces artistes se sont exprimés avec un support culturel, autant par l'image que par le texte poétique, car poètes eux-mêmes, pour la plupart, ils ne savaient que faire de la poésie, c'est faire image. Et la modernité de ce mouvement consiste également dans cette façon de réveiller les sensations du public par la multiplication et la cohabitation d'images picturales et poétiques qui se marient entre elles. Ils voulaient être absolument originaux, ils s'inspiraient de la nature sans pour autant s'y asservir, ils voulaient être sincères, sincere. Et pour cela, ils rejetaient l'anecdote qui bétifie, et en parfait héritier des théories de Winckelmann et Manx, ils voulaient peindre le beau idéal. Tout cela, ils voulaient tout cela dans leur jeunesse.
Et le beau idéal, qu'est-ce ?
Le beau idéal a été inventé en quelque sorte par ces deux théoriciens allemands, l'un archéologue, Winckelmann, et l'autre peintre, qui se sont rencontrés pour montrer que le beau ne pouvait être retrouvé et retransmis que par l'antique. Ils ont mis en quelque sorte l'idéal classique grec à la mode, et cela depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, ces jeunes peintres veulent tout. Ils veulent être modernes, mais ils veulent se référer au beau idéal, ils veulent s'appuyer sur des textes littéraires, ils veulent absolument tout.
Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en compagnie de Brigitte Ducousseau-Mao, historienne de l'art, qui nous présente les différentes étapes du plus large courant de l'art nouveau. Notre émission aujourd'hui est consacrée aux pré-raphaélites. Brigitte Ducousseau-Mao, vous nous avez donc maintenant bien expliqué le fond historique et esthétique du pré-raphaélisme, mais essayons de quitter la théorie pour faire rêver nos auditeurs en parlant des œuvres proprement dites. Certains tableaux sont un véritable enchantement.
Afin d'illustrer les préceptes de ces artistes, j'ai choisi d'étudier 3 œuvres qui me semblent représentatives de ce courant d'art. L'Ophélie de John Everett Millais, Proserpine de Dante Gabriel Rossetti et Psyché, délivrée par Cupidon, d'Edward Burne-Jones.
Oui, on ne peut qu'être d'accord avec votre choix. Commençons donc peut-être avec Ophélie, figure que tout le monde peut imaginer et qu'on peut admirer à la Tate Gallery à Londres.
Alors, le tableau est présenté à l'exposition de la Royal Academy en 1852. Tout le monde, je l'espère, se souvient de la pièce de Shakespeare, Hamlet, dans laquelle Ophélie, la promise du prince danois, abandonnée par celui-ci, perd la raison, se noie dans la rivière après avoir appris le meurtre de son père par son amant. Nous sommes donc en plein drame. Et dans le tableau de Millet, Ophélie est allongée dans une rivière, flottant comme une épave, au milieu d'une abondante végétation. Ce tableau est peint durant l'été 1851 et Millet a pratiqué la peinture sur le motif pour rendre au plus juste les coloris et les formes florales. Le modèle, Ophélie, se nommait Elizabeth Siddal. Elle était modiste à Covent Garden et elle va inspirer plusieurs peintres et surtout devenir une sorte d'archétype de la femme idéale, la femme pré-raphaélite, pour tous ces peintres pré-raphaélites. La rousse aux yeux verts, à la peau laiteuse et transparente. Elle est la femme sensuelle et ensorcelante. Et pour la petite histoire, elle posait dans une baignoire, chauffée par des lampes, et malgré ses précautions, elle prit froid. Et le père du modèle menaçait Millet d'un procès s'il ne payait pas les honoraires du médecin.
Voilà une anecdote qui ferait les délices de la presse people aujourd'hui. Mais plus sérieusement, ce tableau est véritablement de toute beauté.
Il s'agit là, en outre, d'une véritable œuvre pré-raphaélite, car elle correspond aux critères de la confrérie. Elle s'inspire d'une œuvre littéraire, elle met en scène la nature dans son éclat et son exubérance, selon les théories de Courbet, que tous ces peintres adorent, et le thème de la femme perdue, folle et suicidaire, y apparaît. La femme fatale, en réalité. Mais je vous propose d'écouter ce que Théophile Gautier disait de cette œuvre avec ce tour d'esprit qui lui était si particulier. Alors, je cite, « De loin, il faut l'avouer, l'Ophélie de M. Millet a un peu l'air d'une poupée qui se noie dans une cuvette. Mais approchez, et vous serez ravis par un monde prodigieux de détails. La toile s'animera et fourmillera à vos yeux. Il vous semblera être couché sur une rive et voir petit à petit se diriger mille formes de ce que vous aviez pris d'abord pour une confuse masse verte. Toujours quelque chose de neuf. Quelque accident inaperçu viendra récompenser votre attention. C'est de la fantaisie faite avec de la patience et le plus méticuleux des botanistes ne retrouverait pas dans ce fouillis végétal une seule feuille, une seule nervure, un seul pétale, un seul pistil inexact. »
C'était un fin observateur, on doit dire, Théophile Gautier, et en plus du maître à écrire.
C'était un très fin observateur et ce naturalisme exubérant affiché pour illustrer un thème littéraire a quand même choqué un peu le public anglais et français, car il a rendu crédible l'événement qui était une histoire littéraire. En effet, l'aspect photographique de la peinture a provoqué un certain malaise, car il n'y a pas d'héroïsation de la jeune femme, ni embellissement par un cadre grandiose, historique ou architectural, qui aurait permis une certaine mise à distance du drame, et l'humanisation de cet épisode le rend inquiétant parce que possible. Et si Millet et Hunt sont toujours restés attachés à cette manière naturaliste de peintre, Dante Gabriel Rossetti, lui, s'est enfermé dans un monde peuplé de légendes et s'est éloigné de ce diktat pour créer un univers clos, ne se référant qu'à l'époque médiévale.
Passons maintenant à Proserpine. En fait, c'est le nom romain de Perséphone, qui était donc la fille de Zeus, je rappelle, et de Déméter. Elle était enlevée par Hadès et devient finalement la déesse des flots souterrains.
Oui, une déesse qui va fasciner les peintres pré-raphaélites et les peintres du XIXe siècle, puisque ce thème va être repris un bon nombre de fois. Et tout en continuant à peindre, Gabriel Dante Rossetti, blessé par les sarcasmes des critiques d'art et l'accueil du public, a renoncé dès 1850 à exposer ses œuvres en public. C'est une décision qui a pris une dimension complètement littéraire et légendaire, celle de l'artiste qui renoue avec l'auto-héroïsation romantique et qui a contribué, si ce n'est à son succès, tout du moins à la renommée du peintre. Rossetti s'est consacré dès 1854 à l'aquarelle et il refusait de peindre à la manière naturaliste et préférait illustrer des thèmes poétiques qui étaient plus propices à son imagination romantique et à son caractère sentimental. Il a été très épris de ce modèle dont nous avons parlé, l'Ophélie déjà, qui va devenir le modèle idéal de tous les pré-raphaélites. Il l'a considéré comme son double et il est devenu son amoureux. Il s'est installé avec elle dans une maison à Chatham Palace et Rossetti projetait sur cette femme, sur Elisabeth Siddal, tous ses rêves médiévistes. Il lui demandait de s'habiller de façon médiévale, lui-même se confondait avec Dante pour mieux séduire une Elisabeth devenue Béatrice pendant cette vision. Elisabeth n'était que le pur miroir de Rossetti. Elle dessinait aussi et peignait des œuvres rossettiennes et au-delà de sa sublime rousseur, Elisabeth Siddal peignait et écrivait des poèmes. Et John Ruskin, le protecteur et mécène de Rossetti, lui avait alloué de 1855 à 1857 une pension contre ses œuvres poétiques. Et cette relation en miroir de Rossetti et d'Elisabeth Siddal, complètement claustromane et claustrophile, fascinait complètement Ruskin, qui regardait ce monde comme un monde étrange et inquiétant.
Oui, vous nous faites entrer dans le secret de leur intimité, Brigitte Ducos-Somao. Ce Rossetti qui évoluait donc entre son amour idéalisé et les amours de passage, parce que c'était un grand amoureux, outre le grand peintre.
Un grand amoureux avec une femme idéale, bien sûr, mais qui le martyrisait un petit peu quelque peu, puisqu'il avait des liaisons avec ses modèles, qui étaient soit des prostituées, soit des grisettes. Il a fini quand même en 1860 par épouser Elisabeth qui était enceinte, mais qui perd son enfant et meurt en 1862 d'une overdose de laudanum qui mettra fin à ses souffrances et ses rapports de couple difficiles avec Rossetti. Et dès la mort de cette femme, son double, donc avec un grand rapport un peu inquiétant, fusionnel et inquiétant, Rossetti va s'installer à Tudor House, à Chelsea, et va vivre entouré d'animaux exotiques. Et à partir de ce moment, va commencer une longue descente aux enfers, entre alcool et drogue, une longue crise qui va durer plus de 10 ans, qui va durer de 1860 à 1870. Et c'est à cette période qu'il fait la connaissance de Jane Morris, l'épouse de William Morris, qui va devenir la muse de la dernière partie de sa carrière.
Et c'est donc cette Jane Morris qui est peinte sous les traits de cette fameuse Proserpine.
C'est cette Jane Morris, cette jeune femme, la jeune épousée de William Morris, qui va devenir la muse de Rossetti et qui va devenir l'incarnation de cette Proserpine dont le beau visage rêveur et sensuel évoque la dualité de la condition existentielle de la déesse qui partage sa vie entre les enfers et la terre, 6 mois sous terre et 6 mois à regarder le soleil. Dans ce tableau, la composition asymétrique ajoute une note de mystère et le bleu opalescent enveloppe le corps de la jeune femme. Une lourde chevelure bouclée semble dégager un parfum enchanteur, tandis que la grenade ouverte et prometteuse fait contrepoint au bleu envahissant de la robe légèrement plissée, ondulante, serpentine et vaporeuse comme une aile de papillon. C'est un portrait à l'italienne qui évoque le fameux sfumato de Léonard de Vinci. Celui-ci l'utilisait comme élément de transition pour passer de la forme au fond du tableau, sans qu'il n'y ait de rupture.
Oui, d'ailleurs, les auditeurs pourront apprécier par eux-mêmes cette œuvre vraiment remarquable sur notre site de Canal Académie. Donc, Brigitte Ducos-Somao, ce troisième représentant des pré-raphaélites, Edward Burne Jones, qui était-il et quel fut son parcours ?
Edward Burne Jones est le troisième des pré-raphaélites, celui de la seconde génération. Il a fait ses études au King's Edward's College de Birmingham et ses parents le destinaient à la prêtrise. Il s'est lié très vite d'amitié avec William Morris, avec qui il partageait la même admiration pour Dante Gabriel Rossetti. Et Rossetti a d'ailleurs été son professeur et son maître. Ils aimaient tous ces artistes, et Burne Jones et Rossetti aimaient particulièrement les thèmes médiévaux ou antiques qu'ils chargeaient d'un certain symbolisme. Et l'art de Burne Jones a impressionné particulièrement le symboliste belge Ferdinand Knopf. Et pour comprendre l'œuvre d'Edward Burne Jones, il est indispensable de connaître la mythologie grecque ou latine, car ce peintre puise son inspiration dans ce répertoire littéraire inépuisable. Il peint des mondes clos, atemporels, chargés de symboles.
Oui, donc, et l'œuvre de Edward Burne Jones dont vous vouliez nous parler, c'est donc Cupidon délivrant Psyché. Est-ce que vous pouvez peut-être nous situer un petit peu ce tableau ?
Cette œuvre est représentative du style et de l'univers poétique de ce peintre, car plusieurs voyages en Italie de 1859 à 1873, dont l'un fait en compagnie de Ruskin encore et toujours, oui, en 1862, l'amenèrent à affermir réduire ses formes et à monumentaliser ses personnages. Car dans un premier temps, son œuvre était complètement empreinte de la manière de Rossetti, avec une palette riche, des contours, des personnages doux, estompés, et petit à petit, son style va se définir clairement. Dans ce tableau, Cupidon délivrant Psyché, l'influence du graveur que fut Botticelli est manifeste. Les contours des personnages de Burne-Jones sont nets, précis, vigoureux. La composition évoque à la fois la naissance de Vénus et le printemps, avec toutes ces fleurs qui volent et se draper où le souffle de Zéphyr s'est engouffré. Les personnages sont en monumentalité, ils sont traités en volume, comme les sculptures de Michel-Ange. Quant aux couleurs, elles sont toutes rompues et la palette s'est complètement éclaircie.
Et quant au sujet ?
Le sujet est un sujet bien sûr mythique, est un sujet inspiré du mythe grec. Botticelli faisait de même, car il appartenait au cercle médicéen des néoplatoniciens. Il y a chez Burne-Jones un certain désir de retour à l'antique, le beau idéal prôné par les pré-raphaélites, un désir de renoncer au réel et à son époque, un désir d'éternité qu'il confie à la peinture. Et les regards très mélancoliques de ces personnages sont ambigus. Ils ne regardent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, sans dialogue avec le monde, hors du champ de la toile. Il a un certain goût pour le naturalisme qui se traduit par la présence d'une multitude de détails, un véritable fourmillement de végétation telles que les ronces ou les églantines, et par le traitement minutieux des édicules, comme les ruines, ou les architectures qui apparaissent dans ses œuvres.
C'est comme un monde surnaturel, si je comprends bien, mystérieux.
Le monde de Burne-Jones est un monde qui nous interpelle car il nous révèle nous-mêmes à l'intérieur de notre monde poétique. Et le choix de ce thème de Psyché délivré par Cupidon traduit son constant souci d'esthétisme et d'harmonie entre sensualité et spiritualité.
Voilà, ce sont finalement les principaux traits du pré-raphaélisme.
Et de Burne-Jones, de l'œuvre de Burne-Jones.
Oui. Brigitte Ducoussomao, merci. Votre regard approfondi sur ce mouvement des pré-raphaélites est vraiment très précieux, d'autant qu'il est relativement peu connu par rapport à d'autres courants faisant partie de l'Art Nouveau. J'informe nos auditeurs que le prochain volet de notre série sur l'Art Nouveau sera consacré à la sécession viennoise initiée par Klimt. À bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.